Et merci de nous avoir conduits dans la joie, surtout dans un monde déchu, hein, où lorsque nous entendons des informations autour de nous, nous avons de quoi nous inquiéter. Mais il existe aussi d'autres défis, des défis qui se pointent, qui se présentent sur le chemin des parents, avec des situations éthiques, hein, d'une telle complexité qu'on pourrait qualifier de profond désordre, hein, qui rendent les choses encore plus difficiles. Nouveaux enjeux, nouvelles mentalités. Et je suis vraiment heureux de voir que de plus en plus de chrétiens prennent conscience de ces enjeux-là. Lors de notre week-end d'église, Charles Nicolas nous a sensibilisés sur la question de nos rapports à nos enfants, hein, en traitant le thème de la maison. Et le 29 octobre, il y aura donc une conférence qui sera organisée par le Concours biblique, qui va aussi dans ce sens avec un enseignement et donc des ateliers dont le thème est « Éduquer selon le cœur de Dieu ». Alors ce matin, nous allons pas parler de ces thèmes-là qui seront mieux abordés puis approfondis, mais j'aimerais partager avec vous une question qui tourmente bien des parents, et surtout des parents qui ont des enfants qui sont devenus grands. C'est la question de savoir quelle est notre responsabilité de parents chrétiens dans la décision spirituelle de nos enfants devenus grands. Et surtout s'ils ne suivent pas le Seigneur. Ah, compliqué, hein? Voilà. Alors, on parlera de ce que dit l'Ancien Testament, hein, et puis on verra un peu ce qu'ajoute le Nouveau Testament, et puis je ferai quelques remarques sur cette question de la décision spirituelle de nos enfants et de notre responsabilité. Pour cela, j'aimerais voir un texte avec vous qui se trouve dans 1 Samuel, chapitre 8, et ça concerne le prophète Samuel. On a parlé de la joie, et certainement Samuel a eu beaucoup de joie d'être dans la présence de Dieu, mais il avait aussi des fardeaux. Hein, et c'est le paradoxe du chrétien, hein, être dans la joie avec des fardeaux. Et ces fardeaux-là, ben, il les a portés même dans un âge avancé. 1 Samuel 8, versets 1 à 7, « Lorsque Samuel devint vieux, il établit ses fils juges sur Israël. » Le nom de son fils aîné était Joël et le nom du second Abia. Ils étaient juges à Beersheba. Les fils de Samuel ne marchèrent pas sur ses traces. Ils avaient un penchant pour le profit et ils recevaient des présents et portaient atteinte au droit. À tous les anciens d'Israël se rassemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama. Et lui dire, voici que tu es vieux, que tes fils ne marchent pas sur tes traces, maintenant établis sur nous, pour nous juger un roi, comme en ont toutes les nations. Aux yeux de Samuel, c'était une mauvaise chose qu'il ait dit, donne-nous un roi pour nous juger. Et Samuel pria l'Éternel, et l'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette. C'est moi qui le rejette pour que je ne règne plus sur eux. Ah, c'est pas un texte facile, une situation aisée pour Samuel. Hein. Le contexte, c'est qu'Israël veut un roi pour être comme toutes les nations. Samuel a un souci, et c'est celui du peuple qui dévie. Il a le souci de sa fonction. Et il amène cela devant le Seigneur. Le Seigneur regarde. Et il est piégé parce que ses fils ne sont pas un modèle de foi. Il peut pas dire, voilà mes fils, qu'ils prennent le relais. Alors il y a un silence quant à la vie familiale et privée de Samuel. La Bible ne nous relate pas grand-chose dans ce domaine-là. On n'a pas le nom de sa femme, moi je ne l'ai pas trouvé, rien sur ses rapports avec ses fils. Nous apprenons ici, dans ce court texte, trois choses. La première, c'est que c'est lui qui a établi ses fils à Beersheba, une décision paternelle. La deuxième, c'est le nom de ses fils. Joël et Abia. Et la troisième chose, c'est qu'ils ne marchèrent pas sur ses traces. Autant pour les deux premières choses, ça allait, mais la troisième, c'est un peu plus épineux. Alors avant lui, il y avait Élie, le sacrificateur, à ne pas confondre avec Élie le prophète, de la météo, hein, comme on a pu le voir. Élie le sacrificateur, eh bien, on avait plus de précision sur lui. Ça nous permettait de mieux comprendre sa situation. Il n'était ni un modèle de fidélité vis-à-vis de Dieu, ni un modèle d'éducation, parce qu'il n'a pas empêché ses fils de commettre des actes condamnables alors qu'il servait Dieu en tant que sacrificateur. À peine les a-t-il réprimés. Ne faites pas cela parce que vous portez honneur à l'Éternel. Mais il n'a pas soulevé l'ampleur de leurs péchés et il les a laissés faire. Et c'est Dieu qui est intervenu contre ces mauvais serviteurs, contre Élie, dont la conduite était considérée comme un blasphème. Alors on pourrait dire, eh bien, c'est normal, c'est logique. Hein, ce père qui laisse faire des fils, etc., que Dieu les rejette. La responsabilité du père est engagée. Et les fils ont pris une décision qui va dans ce sens-là. Mais voilà que cette logique ne fonctionne pas du tout avec Samuel, qui est un bon sacrificateur. C'est même lui que Dieu a choisi. Lui qui a été consacré deux fois. Une fois par sa mère qui l'a consacré à Dieu, et puis la deuxième fois, Dieu l'a consacré. Alors, il vit dans cette intimité avec Dieu, et pourtant il dit que ses fils ne marchèrent pas sur ses traces. En plus, comme Israël, ses fils n'ont pas voulu que Dieu règne sur eux. Pourquoi cet homme de Dieu a-t-il le même problème que des hommes qui rejettent Dieu? Alors, certains commentateurs disent que, il y a une carte ici. Voilà, je sais pas si vous voyez, elle est floue, rassurez-vous. Changez pas de vision, là, de lunettes. Une carte dit que Samuel ignorait ce que ses fils faisaient à Beersheba. Alors, Beersheba, c'est carrément au sud d'Israël. Et la ville la plus élevée, c'est Dan. D'où l'expression de Dan à Beersheba, dans la Bible, hein, pour dire l'ensemble d'Israël. Donc, Beersheba, c'est en bas. Et Rama, où habite et où exerce donc Samuel, c'est à 80 km un peu plus au nord. Donc, Samuel ignorait sans doute cette conduite. Et ces choses se sont passées très loin de lui, ce qui expliquait qu'il n'a pas eu d'effet sur ses fils. En tout cas, nous savons une chose, c'est que cet homme de Dieu, il a des émotions. Comme les parents chrétiens ont des émotions. Et quand les enfants ne suivent pas la voie de Dieu, évidemment, nous sommes attristés. On se sent seul face à ce constat. Et on peut aussi imaginer qu'Élie a dû dire, Samuel a pu dire, Seigneur, quel témoignage est-ce que mes enfants laissent devant tout Israël? En tout cas, pour les anciens d'Israël, c'est clair. Voici que tu es vieux et que tes fils ne marchent pas sur tes traces. Donc, ça se sait. J'imagine que cet homme a dû être profondément troublé dans son cœur et qu'il y a eu des luttes intérieures, même si la Bible ne nous en parle pas. Alors ce souci, bien des parents chrétiens rencontrent dans les églises et dans les discussions, et avec des enfants qui pourtant ont reçu un enseignement spirituel. Où est-ce qu'on a failli? Où est le problème? Alors il est important d'ajouter ceci avant d'aller plus loin, c'est que aucun parent, aucun homme n'est un professionnel dans ce domaine. Il n'y a pas de recette qui fonctionnerait. Même les spécialistes qui s'expriment sont limités quant à cette question. Alors l'Ancien Testament nous dit par exemple qu'il y a des super parents qui ont eu des enfants absolument à l'opposé de leur vie de foi. Isaac et Rebecca ont eu Jacob, c'est chouette, mais ils ont aussi eu Ésaü. Aïe. Jacob, l'homme qui a appris à dépendre de Dieu, hein, qui a eu 12 fils, des enfants spirituellement, ces enfants étaient différents. Par exemple, Ruben était adultère. enfin, plus qu'adultère. Il a couché avec concubine de son père. Quand même, l'aîné. Siméon et Lévi étaient d'une violence terrible. Pour venger leur sœur, ils sont allés massacrer tout un village. Judas, pas toujours exemplaire. Hein, il fréquentait des femmes de mauvaise vie. Hein. Joseph a eu Manassé et Ephraïm, et on voit que les tribus de Manassé et Ephraïm ont été terrifiantes. Être fidèle et avoir des enfants fidèles n'est malheureusement pas une loi absolue. Ah, on peut se décourager. Hein, on a parlé de la joie. Bon, oh là là, mais à quoi ça sert alors? Hein, Seigneur, je te sers, je te prie, je te loue, et voilà que mes enfants ne te suivent pas. Alors que faire? Eh bien, d'abord et avant tout, nous devons suivre les instructions de Dieu. L'obéissance est une des premières règles. Dans Deutéronome 6, les parents avaient cette exhortation de parler de Dieu régulièrement à leurs enfants en toute occasion et à divers moments de la journée. Et cette notion, nous la retrouvons dans Proverbe 22, verset 6. « Oriente le jeune garçon dans la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en écartera pas. » Alors, on a déjà eu l'occasion, lors d'une présentation, de citer ce verset. Alors, il est intéressant. Parole donc de vie nous donne cette traduction, c'est « donne à un enfant de bonnes habitudes dès ses premières années ». Les Français courants disent « donne de bonnes habitudes à l'enfant dès l'entrée de sa vie ». Ah, donc il y a là une exhortation qui est d'orienter et de l'orienter dans le chemin, dans les voies. Hein. Orienter, ça veut dire indiquer, diriger, même influencer. Alors des fois, j'entends des parents qui ont peur d'être trop pressants sur leurs enfants, de les influencer. Rassurez-vous, TikTok, Internet, les copains, ils font une pression terrible. Hein. C'est du lavage de cerveau. Hein. Voilà. Donc même si on passe pour des relous, c'est pas grave. Hein. Parce que le but d'orienter, c'est d'axer l'intérêt de l'enfant vers une direction, un but à atteindre. Et le but, c'est Dieu. Alors, oriente l'enfant sur une voie, sur un chemin. Le chemin de ce qui est permis, de ce qui n'est pas permis. Il y a des choses à la maison qui sont négociables, d'autres qui ne sont pas négociables. Ça se fait, ça ne se fait pas. Parce qu'il y a un réel danger à prendre certains chemins. C'est pour ça que la Bible exhorte nos jeunes, eh bien, à veiller à leur fréquentation. Alors le peuple tout entier était invité à éduquer les enfants, selon les commandements de Dieu, à leur transmettre ces valeurs spirituelles, les valeurs de ce Dieu qui a fait alliance avec leur aïeul, Abraham, ce Dieu qui les a délivrés de l'Égypte, ce Dieu qui leur a donné une loi, une promesse, un pays. Ils avaient pour mission de transmettre que Israël était un peuple à part. Alors là, la limite est tu ne peux pas ressembler à d'autres nations. Pourquoi? Parce que nous sommes un peuple à part. Hein, le temps est donné. C'est pour ça que quand Israël a demandé à avoir un Dieu comme les nations, Samuel a dit, mais attendez, vous êtes en train d'offenser, de rejeter Dieu. Hein, alors, vous pensez que c'est lui, hein, ils m'ont rejeté. Dieu a dit, non, ce n'est pas toi qu'ils ont rejeté, c'est moi qu'ils rejettent. Parce qu'ils ne veulent pas que je règne sur eux. Israël devait reconnaître que son roi était Dieu et Dieu. Mais il a préféré faire comme les autres. Une famille chrétienne n'est pas une famille comme les autres. C'est une famille qui appartient à un peuple que Dieu a mis à part. D'ailleurs, il est intéressant de voir dans le livre des Proverbes, puisqu'on est dans le livre des Proverbes, de voir que Salomon a donné de super conseils qu'il n'a pas respectés. Eh oui, le conseiller n'est pas le payeur. Hein? Roboam, son fils, qui a été instruit des conseils de son père, a fait absolument, a pris le contre-pied. Hein, vous lirez 1 roi 12, c'est une catastrophe son règne. Proverbe 22, verset 6, met l'accent sur la nécessité de former les enfants, mais pas de les rendre pieux. De nombreux théologiens ont conclu que ce passage de Proverbe 22 ne promet pas des enfants spirituels à des parents qui ont fidèlement élevé leurs enfants dans un foyer qui aime Dieu. D'ailleurs, le livre des Proverbes, qui s'adresse aux parents chrétiens, qui concerne les enfants chrétiens, eh bien, nous dit qu'il y a des enfants qui peuvent être paresseux, on ne sait pas éduquer à la paresse, rebelles, alors qu'on les a élevés dans l'obéissance, indignes, alors que l'on a transmis les valeurs de la dignité, ils peuvent même être oppresseurs et moqueurs. Ah ! Donc, les parents n'avaient pas une obligation de résultat. Dans l'Ancien Testament, les parents avaient une obligation de moyens. Qu'est-ce que vous mettez en œuvre ? Dieu dit, voilà ce que vous allez mettre en œuvre. D'ailleurs, la loi du Deutéronome stipule qu'on ne fera pas mourir les pères pour les fils, et on ne fera pas mourir les fils pour les pères. Mais chacun, eh bien, portera les conséquences de son péché. Chacun, donc, est responsable de ses propres décisions. Ça, c'est un point important. Dans l'Ancien Testament, nous voyons qu'il y a eu de bons rois qui ont engendré des fils terribles, et des rois terribles qui ont engendré des fils qui étaient droit devant l'Éternel. Et puis on lit dans l'histoire des rois, il fit ce qui est droit ou il ne fit pas ce qui est droit. Comme son père avant lui, hein, on le voit ça, hein. Son père a été soit un modèle, soit un contre-modèle. Et des fois, il y a une petite nuance, avec toute foi, les hauts lieux ne disparurent pas. Donc voilà, il y a des compromis aussi. Hein. Par exemple, Abiam, qui était le petit-fils terrible de Salomon, hein, qui était vraiment rebelle à Dieu, a eu un fils, Asa, qui était très spirituel, qui a permis un réveil. Et un roi qui a permis un grand réveil, comme Josaphat, a eu un fils, Yoram, qui a été terriblement opposé à l'Éternel. Donc, il n'y a pas de règle. Un bon père va engendrer des fils et des filles spirituelles. Une bonne mère va engendrer des fils et des filles spirituelles. Être fidèle et avoir des enfants fidèles n'est malheureusement pas une loi absolue. Comme aussi être infidèle et engendrer des enfants infidèles. Et heureusement pas une loi absolue. Alors, que dit de nouveau, qu'ajoute le Nouveau Testament dans ce contexte-là, dans cette idée? Alors, l'enseignement du Nouveau Testament va dans le même sens que l'Ancien Testament, qui concerne la responsabilité des parents dans l'éducation spirituelle des enfants. Et on connaît ce verset qui plaît toujours au papa. Père, n'irritez pas vos enfants. C'est bizarre, ça nous parle ça, hein. N'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant, en les avertissant selon le Seigneur. Alors, j'aime beaucoup ce que disait Pierre Moulinengo. Il disait que élever les enfants, il y a aussi le sens de les élever, de ne pas les rabaisser. Hein. Et des fois, on commet des fois des erreurs en les rabaissant. Regarde ce que tu as fait, mais qu'est-ce que c'est que ça, c'est nul. Non, non, élever, les aider à se construire. Hein. En réalité, cette notion de transmission et de vie ne s'adresse pas forcément dans la relation des parents à enfants. Et cette mission de transmission de valeurs chrétiennes intéresse aussi l'Église dans le choix de ses responsables. Que dit l'apôtre Paul? L'apôtre Paul dit ceci, « Celui qui aspire à être un dirigeant d'Église désire une belle tâche. Qu'il dirige bien sa famille. » Ah, voilà un critère. « Il maintienne ses enfants dans l'obéissance. Hein, en toute dignité. » Qu'on peut maintenir dans l'obéissance avec des tasers. Ce n'est pas le but. Hein. Car comment un homme qui ne dirige pas bien sa famille serait-il qualifié pour prendre soin de l'Église de Dieu? Donc Paul dit que ce critère d'éducation va aussi être important pour le choix des responsables d'Église. Pas seulement les responsables, les diacres, ceux qui sont aussi au service, que les diacres assument bien leurs responsabilités à l'égard de leurs enfants et leurs familles. Et Paul dira aussi dans Tite, hein, ayant des enfants, donc pour les responsables, des enfants fidèles. Ah bon, fidèles, oui, mais fidèles. Fidèles au Seigneur. Alors la question c'est, mais à quel âge cesse-t-on d'être un enfant? Hein? Toute sa vie. Donc ça veut dire que les responsables d'église doivent avoir forcément des enfants convertis. Mais je connais des tas de responsables d'église qui sont de super serviteurs de Dieu qui n'ont pas tous leurs enfants convertis. Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire? Attendre qu'ils aient 20 ans ou 25 ans, voir s'ils sont convertis, on garde ses serviteurs, s'ils ne le sont pas, on les renvoie. Mais ce ne serait pas biblique parce qu'on devrait renvoyer Samuel dans ce cas-là, le prophète et bien d'autres. Il y a donc une évaluation des responsabilités, non pas en fonction des compétences, de la sympathie ou des aptitudes professionnelles. Mais il y a ici, dans le choix, comme une notion de compétence en matière de gestion de leur foyer. Je ne peux pas demander à un homme si son fils plus tard s'est converti, ça veut dire qu'il est un bon chrétien ou un bon responsable. Mais par contre, cette base de bien gérer son foyer, eh bien, c'est quelque chose qui va aussi s'exprimer dans l'Église. Plus largement, on pourrait dire, est-ce qu'un père chrétien peut être condamné parce qu'il n'a pas été capable de conduire son fils ou sa fille à Christ? Ou peut-être pourrait-on le louer parce que ses filles sont converties? Ce qui est très surprenant, c'est que même l'apôtre Paul n'a pas réussi à convertir tout le monde. Regardez Démas qui a travaillé avec Paul. Paul dit que Démas a abandonné, m'a abandonné par amour pour le siècle présent, il est parti pour Thessalonique. On pourrait dire, mais Paul, tu as échoué là. Hein? Et même Jésus, quand il est face au jeune homme riche, quand il lui dit, suis-moi, vends tout ce que tu as, que fait le jeune homme? Et sans moi, il ne le suit pas. Jésus, on peut dire, c'est un échec. Hein? Même Judas qui a trahi, alors que Jésus aurait pu le sermonner et l'encourager. Il existe donc des parents spirituels dont les enfants ont été une déception, comme aussi des jeunes spirituels issus de familles non spirituelles. Alors j'aimerais faire quelques remarques. Au nombre de 5. La première des choses que nous devons retirer de l'enseignement des enseignements bibliques, c'est qu'avant tout, Dieu est un Dieu qui sauve, aujourd'hui encore. Ça, c'est important. Nous avons inculqué nos enfants dans le salut. Ils ont quitté la maison. Ils ont fait d'autres choix, certainement, qui nous déplaisent. Et ce n'est pas une raison pour penser que Dieu ne les sauvera plus. Dieu sauve encore aujourd'hui. Il a sauvé des hommes depuis le début de l'humanité. Avec Noé, il a sauvé Abraham de l'Égypte. Il a sauvé Lot et ses filles de Sodome et Gomorre. Dieu a sauvé Jacob et sa famille. Il a sauvé Moïse des eaux. Il a sauvé les Israélites. Et l'acte au summum du salut, c'est la croix. Jésus a sauvé l'humanité à la croix. Il a accompli cela pour que les hommes vivent. Il a pris sur lui notre punition. Non seulement il prend notre péché, mais il nous offre sa justice. Ça, c'est extraordinaire. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est que même si nos enfants ne sont pas au Seigneur et qu'ils ont rejeté, n'oublions pas que Jésus lui-même dit, quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse les 99 dans le désert pour aller vers celle qui est perdue. Ce n'est pas seulement notre souci, c'est aussi le souci de Dieu. De voir des enfants qui ont été inculqués dans les églises et les familles chrétiennes, eh bien, qui se sont détournés de lui. Ézéchiel nous rappelle, hein, est-ce que je désire avant tout la mort du méchant? Oracle de l'Éternel. Alors dans l'Ancien Testament, quand c'est marqué oracle de l'Éternel, ça veut dire, fais gaffe à ce que tu dis. Et tu lis. Oracle de l'Éternel, c'est Dieu qui parle. N'est-ce pas qu'il se détourne de sa voix et qu'il vive? Donc, ce message est pour chaque génération, et personne en dehors de Dieu ne sauve. La deuxième des choses, c'est que chaque génération est appelée à faire une alliance avec Dieu. Aucun enfant, aucune génération ne peut se reposer sur les générations précédentes. Si vous avez dans vos aïeux des illustres hommes de Dieu, tant mieux. Ça ne sert pas à grand-chose pour votre salut. Eh oui. ça donne un coup un peu à l'amour propre. Nos ancêtres ne sont pas une garantie de notre salut. On ne peut pas se satisfaire des acquis spirituels de sa famille ou de ses parents, mais de vivre comme on veut. Chaque génération doit faire ce pas, cette alliance avec Dieu. Peu importe qu'un père soit prédicateur, missionnaire, dirigeant d'église ou impliqué d'une manière ou d'une autre, le seul moyen d'être sauvé, c'est ta décision, jeune homme ou jeune fille ou jeune femme, personnelle, de venir à Jésus, de lui faire confiance. Ah, comme quelqu'un l'a bien dit, Dieu n'a pas de petits-enfants, il n'a que des enfants. Donc chaque génération doit faire ce pas d'alliance. La foi est une affaire personnelle. D'ailleurs, Hébreux 4, 7 nous l'explique. Dieu fixe un nouveau jour. Ah bon? Oui, aujourd'hui. C'est aujourd'hui. C'est pas hier. Hein? En disant aussi, en disant bien, longtemps après, par la bouche de David, comme il a été dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Ce message est toujours valable et le restera jusqu'au retour de Jésus. La troisième des choses, remarque, c'est avoir des enfants qui se tournent vers Dieu, et oui, reste toujours une grâce de Dieu envers nous. C'est une action du Saint-Esprit qui convainc le pécheur. Nous pouvons, à la limite, en faire de bons religieux. Ça peut. Mais une conversion, une humiliation devant Dieu, une capitulation devant la croix, ça reste l'œuvre de Dieu. Seul Dieu peut accorder aux hommes cette grâce et cette nouvelle vie. Avoir des enfants donc, qui se tournent vers Dieu reste une grâce de Dieu et un grand sujet de prière. Méfions-nous de notre orgueil, de penser que c'est par notre spiritualité que nos enfants appartiennent au Seigneur. Non, c'est une erreur. Peut-être tu as des enfants, des petits-enfants qui ne sont pas au Seigneur. Eh bien, continue à semer, continue à prier, continue à espérer. Il y a un cantique que j'aime bien qui dit « Je veux crier à toi plutôt que de me plaindre. Je veux compter sur toi et te louer à nouveau. » Ne laissons pas cette joie laisser la place à une tristesse qui nous alourdirait. Dieu est au courant et nous sommes appelés à venir à la croix intercéder. Nous devrions prier avec ferveur pour nos enfants et les enfants des chrétiens que nous connaissons et ne jamais désespérer. Vous savez ce qui se passe avec les enfants de Samuel? Joël et Abia, ils n'ont fait qu'à leur tête, ils n'ont pas voulu que Dieu règne. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir beaucoup plus loin dans la Bible, dans 1 Chronique, chapitre 6, verset 33, une petite indication qui est une lumière d'espoir pour chacun d'entre nous. Voici ceux qui étaient présents, nous dit ce verset, avec leurs fils, donc c'est des chantres, hein. D'entre les fils des Kéatites, il y avait Éman. Qui est Éman? Eh bien, c'est devenu un chantre, il est le fils de Joël, qui est le fils de Samuel. Alléluia! Soulignez ce verset dans la Bible et marquez « Merci Seigneur, Alléluia !» Dieu n'a pas oublié Samuel. Et je peux vous dire que dans le ministère, nous avons rencontré des personnes qui ont prié pour leurs enfants et petits-enfants. Et ce qui est regrettable, c'est qu'elles n'ont pas vu de leurs yeux qu'ils se sont convertis. Ne désespérons pas. Et pensons toujours que c'est une grâce de Dieu lorsque nos jeunes, ou moins jeunes, se convertissent. Alors la quatrième remarque, on arrive à l'avant-dernière remarque, c'est que si nous n'avons pas une obligation de résultat, nous avons quand même, comme le dit l'Ancien et le Nouveau Testament, une obligation de moyens. Le pire serait de penser que tout est entièrement le fruit de notre éducation. L'autre extrême, c'est de penser que ben, puisque ce n'est pas l'éducation, c'est spirituel, laissons-les aller. Il n'y a pas pire situation que des enfants laissés à eux-mêmes, même au niveau spirituel. Et moi, ce qui me rassure, c'est que dans les personnages bibliques et dans mon entourage, en fait, nul n'a été un parent modèle. 4 sur 1, ouais, ça me fait plaisir, hein, voilà. Hein. Nous avons tous échoué dans un domaine ou un autre, n'est-ce pas? Oui, ceux qui disent non, ils n'ont pas entendu la question. Hein. Voilà. Vous voyez, l'Ancien Testament nous ordonne de former nos enfants à la connaissance de Dieu. Nous sommes appelés, notre mission, c'est de témoigner avec nos imperfections. Et des fois, je trouve qu'il y a juste un petit mot qui devrait manquer. C'est juste, pardonne-moi de ne pas avoir été à la hauteur. Est-ce que nos enfants, un jour, ont entendu cela? Ou est-ce que nous avons toujours la belle image du chrétien à leur présenter? Parce qu'ils nous connaissent, hein, mieux que nous-mêmes, parfois. Hein. Nous ne sommes peut-être pas responsables de la manière dont ils vivent leur foi, comme d'ailleurs les autres, mais nous sommes responsables, nous, de notre témoignage de foi. Deutéronome 4, verset 9, dit ceci, « Seulement, prends garde, d'abord à qui ben, prends garde à toi, et veille attentivement sur ton âme, tous les jours de ta vie, de peur que tu oublies les événements que tes yeux ont vus, et qu'ils ne s'éloignent de ton cœur. » Et là, tu peux les faire connaître à tes fils et aux fils de tes fils. Dernier point, enfin, faisons taire les culpabilités. Eh oui, il est bon de faire taire en nous des accusations qui reviennent et qui reviennent, et tu aurais dû, et pourquoi tu as fait, ou pourquoi tu n'as pas fait, hein? Bien que nous n'ayons pas à rendre compte de l'échec de nos enfants, nous rendrons compte de ce que nous aurons fait. Alors il y a un enseignant qui disait ceci, « Trouvons réconfort en tant que parent que le péché impardonnable n'a pas été le péché d'échec en tant que parent. » Ah, bon, c'est bien. Et lorsque nous avons échoué, reconnaissons-le devant Dieu. Et pourquoi pas, comme ça a été dit, devant nos enfants. Trouvons un réconfort auprès de Dieu, car Dieu est un Dieu qui pardonne nos péchés, et nos péchés de parents, comme il le fait avec d'autres. Vous savez, je trouve qu'il y a des fois des jeunes qui se réfugient derrière de mes parents et leur foi. Hein? Alors j'entends, je vous dis pas tout, hein? Ils sont hypocrites, ils sont colériques, ils sont trop légalistes, ils sont trop ringards, ils sont dépassés, ils appartiennent au Moyen-Âge. Il y a des pages et des pages, hein? Voilà. Édition limitée pour les quelques... Non, pas du tout, hein? Mais en tout cas, il y a tellement d'arguments. Mais en réalité, aucune excuse n'impressionne Dieu. Personne ne rentrera au ciel avec ses arguments, hein? Donc si les parents n'étaient pas au niveau, tu penses que Dieu va te laisser rentrer en disant, ah, viens, excuse-moi, je me suis trompé. Hein? Je n'ai pas né dans la bonne famille. Hein? Mais le problème, c'est que celui qui avance ses excuses risque de se retrouver enfermé à cause de ses excuses. En fait, il crée sa propre prison. Le chrétien est quelqu'un qui devrait apprendre de ses erreurs. Et il ne devrait pas s'enfermer dans la culpabilité. Lisez la Bible. Hein. Vous savez, le roi David, hein, lui qui a eu les plus grandes promesses qu'un homme peut avoir, ah ben, il a failli dans son rôle de père. Et Dieu ne lui a pas enlevé. Hein. Dieu est un Dieu qui nous pardonne. J'aime beaucoup ce verset du psaume 103, verset 9, qui a été un apaisement. Alors c'est un homme qui me l'a fait découvrir, un frère en Christ. Il était tellement tourmenté par quelque chose qu'il avait fait qu'il revenait souvent avec les mêmes redites, etc. Peut-être ça t'arrive, hein. Tu amènes ça au Seigneur. Tout à l'heure, Léo disait, venons, laissons nos fardeaux et repartons sans les fardeaux. Mais on est tellement bon qu'on reprend nos fardeaux, hein. Et d'autres en plus, hein. Bon. Et cet homme-là, quand il est tombé sur ce verset, ça a été pour lui, une libération. Que dit le psaume 103, verset 9? Dieu ne fait pas constamment des reproches. Ah, il ne garde pas éternellement rancune. Quand Dieu pardonne, il pardonne. On ne revient plus sur cette question. Donc fais taire toute fausse culpabilité. Oui, on a peut-être failli, mais la décision est personnelle. Ce qui me rassure, c'est de voir Dieu travailler malgré nos échecs. Alors en conclusion, j'aimerais nous rappeler l'histoire du fils prodigue. Nous connaissons cette histoire, hein? Hein? Il paraît, et je le crois, que c'est la plus belle histoire du monde. Ouais. C'est la plus belle histoire du monde. Supposons que ce fils prodigue, eh bien, vive aujourd'hui, au milieu de nous, ou dans l'entourage que l'on connaît. Et supposons que le père du fils prodigue est un responsable d'église, du village de la ville d'à côté. Hein? Alors imaginez ce père qui dit « Ah, mon fils est parti avec mon héritage. » On aurait vraiment tous pensé, peut-être pas exprimé, mais pensé la chose suivante, c'est « Waouh, quel échec dans son éducation ce gars-là. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas réussi ? Il doit y avoir quelque chose qui n'a pas fonctionné dans sa famille. » Et on pourrait dire à ce pauvre responsable, à ce pauvre pasteur, avant, et qu'est-ce qu'il est devenu ? Ah, si vous saviez, il est parti à Marseille ou à Paris, je ne sais pas quoi. Enfin, en tout cas, là où le péché est facilement rencontrable. Hein, et regardez ce qu'il a fait, ce qu'il a fait. Et nous, avec une oreille très intéressée, hein, évidemment, on est rempli de compassion, on se dirait, ah là là, heureusement que ça ne nous arrive pas à nous, hein. Eh oui. Et pourtant, ce père du fils prodigue, celui qui l'a laissé partir, celui dont le fils a quitté, qui est en train de vivre sa vie comme il veut, eh bien ce père du fils prodigue, dans la bouche de Jésus, est non seulement un modèle à suivre pour nous en tant que parents, mais il est l'image de Dieu lui-même dans nos relations. Ah, quand même! Après avoir gaspillé tout son héritage et vécu dans la débauche et la folie de ses choix, son père quoi, se laisse interpeller, quelqu'un sonne à la porte, que nous dit le texte ? Couru vers son fils, qu'il a vu de loin. Il attendait. Comme Dieu nous a attendus, comme Dieu attend nos enfants et les enfants de nos enfants. Alors, la question c'est, qui a été le plus sage de ses fils ? Celui qui est parti et revenu, ou celui qui a fidèlement servi son père pendant tant d'années et qui n'a rien compris? Qui a été le plus sage? Ils avaient besoin tous les deux de prières. En fait, nous devons laisser à Dieu le temps de travailler la vie de nos enfants. Et peut-être que dans nos prières, nous disons « Seigneur, épargne-les du pire, épargne-les de l'échec » ou peut-être que c'est une fausse prière. Le Seigneur ne nous a-t-il pas touché au plus profond de notre cœur quand ça n'allait pas ? Tu t'es converti quand tout allait bien dans ta vie ? Moi pas. Hein. Il a fallu que on commence à toucher un peu le fond pour revenir à Dieu. Et certainement, c'est le type de conversion qui marque. Peut-être que nous sommes trop pressés pour attendre le retour spirituel d'un de nos enfants. Après tout, c'est Dieu qui conduit, et nous pouvons lui faire confiance. Il peut conduire nos enfants dans l'échec, ou d'autres choses, dans les épreuves, pour les amener à lui. Je finis avec une deuxième histoire. Peut-être vous l'avez entendu ici, mais c'est pas grave. Un jour, un chrétien très engagé et humble a vu un de ses fils se rebeller contre lui et rejeter tous ses enseignements chrétiens. Tout. C'était à l'époque des années 60-70, les mouvements hippies. Et donc ce fils avait des cheveux longs et puis fréquentait les squats avec d'autres personnes. Une nuit, très tard, ce chrétien a reçu un appel informant que son fils, était détenu dans un poste de police de la ville. Il se leva de son lit, il s'habilla et descendit à la gare où il y avait un poste de police et il n'avait aucune présence de son fils. Et puis, il a fait le tour de tous les autres postes de police avant de se rendre compte que l'appel était une farce. Après 2 heures, à peu près vers 2 heures du matin, en rentrant chez lui, il décida d'aller voir son fils qui était dans une maison qu'il squattait. Il entra. La porte n'était jamais fermée. Hein. Il enjamba les corps de ceux qui étaient là, hein, endormis suite à de la drogue, etc. avec une lampe de poche, et là, il trouva son fils étalé au sol, en train de dormir sur quelque chose qui ressemblait à un lit. Alors cet homme se pencha doucement et il embrassa son fils sur la joue, avant de rentrer se coucher. Des années plus tard, le jeune homme dit à son père, « Papa, sais-tu ce qui m'a vraiment bouleversé ?» Et le père a dit, « Non, eh bien, c'est cette nuit où tu es venu, tu pensais que j'étais endormi, et je ne l'étais pas, et j'ai ressenti ton baiser sur ma joue. » Et à partir de ce moment-là, il s'est dit, « Je ferais mieux de vivre correctement avec Dieu. » L'histoire finit bien, cet enfant devint pasteur. Gloire à Dieu. Ce n'est pas une histoire pour nous endormir, c'est une histoire vraie qui montre que Dieu est capable et que Dieu est fidèle. À tous les parents qui ont des enfants qui ne sont pas au Seigneur, ne désespérez pas. Et aux autres pour qui les parents, c'est des parents qui ont des enfants qui sont au Seigneur, rendez gloire à Dieu. Et que chacun puisse prier pour son frère, pour sa sœur, qui passe par diverses difficultés. Amen.